Oui.
Merci beaucoup.
Merci de m'avoir invité. Donc, ivresse et ivrognerie, alors,
rassurez-vous. Vous avez un
bon, je
micro.
Pense que là, ça ira, vous m'entendez?
Non,
mais un micro. Je ne sais pas si ça marche.
Prenez l'autre.
Il faut laisser appuyer pour allumer.
J'ai pas les lunettes. Entre on et off.
Alors il y a l'autre.
Est-ce que quelqu'un peut se mettre au clavier pour faire entrer? Ça me permettrait de rester.
Oui.
Qu'est-ce
qu'il faut que je passe à appuyer simplement?
Juste la touche entrée.
Oui, bon, ne touche pas, c'est trop grand.
Celle-là. Si, je passe que c'est là. Voilà. C'est bon.
Merci. Oui, ça marche.
D'accord.
Voilà, donc merci de m'avoir invité, Mme Kelly. Je suis toujours content de venir à Brive. Je suis briviste, je suis né à Brive. Voilà. Donc, depuis quelques temps, je m'intéresse à l'histoire du vin. Donc, je disais, ivresse et ivrognerie, rassurez-vous, il n'y a pas de faute d'orthographe. Ce sont les graphiques qui avaient cours au XVIe siècle. Et donc, j'ai trouvé amusant de les reproduire. Et donc, tout le long du diaporama, vous aurez ces deux graphiques. Voilà. Donc, je m'intéresse à l'histoire du vin parce que c'est un fil conducteur qui permet justement d'aborder, au moins depuis 8000 ans, l'histoire des hommes. C'est un fil conducteur qui permet d'aborder, bien sûr, la préhistoire, l'histoire, la littérature, les religions, la mythologie, les sciences, l'histoire des sciences, et j'en oublie certainement. Donc c'est à travers ce fil conducteur que j'ai révisé un peu les quelques notions d'histoire que j'ai, puisque je ne suis pas du tout historien de formation. J'ai un diplôme d'archéologie à l'école des études, mais j'étais directeur d'école. Donc j'ai pas une formation d'historien, proprement dit. Voilà. Suivant. Donc, si je vous dis qu'importe le flacon, vous allez me dire.
Pourvu qu'on ait d'ivresse.
Pourvu qu'on ait d'ivresse. Alors, qui est l'auteur de ces deux vers?
Eh bien, c'est Alfred de Musset.
Voilà, c'est Alfred de Musset. Est-ce que vous connaissez.
C'est pas Dieu parce qu'il y a la photo.
Oui, voilà, ça aide un petit peu. Est-ce que vous connaissez les deux vers précédents?
Ah non.
Ils sont moins connus, évidemment. Non. C'est Amour et le grand point, qu'importe la maîtresse. Voilà.
Ah.
Bon, c'est un peu moins. Oui, c'est peut-être un peu de misogynie, mais il faudrait lire le poème en entier. Hein. Il faut toujours remettre dans le contexte. Suivant. Alors, boire nous amène à faire la distinction entre le besoin et le désir. Donc, il n'y a une seule boisson, bien sûr, dont on a besoin, c'est l'eau. Après, tout le reste, toutes les autres boissons appartiennent au domaine du désir. C'est-à-dire que lorsqu'on va. Choisir telle ou telle boisson, le vin, la bière, le whisky, etc., la vodka, etc., on fait acte d'identité, en quelque sorte, on va affirmer ses goûts, on va d'abord les découvrir ces boissons, on va les juger, on va les hiérarchiser, je préfère celle-ci à celle-là, et puis ensuite les théoriser en disant, ben, tiens, j'aime bien tel vin, Rioja d'Espagne, parce que j'aime bien, pour telle et telle raison. Voilà, donc c'est s'affirmer. C'est un acte d'affirmation et d'intégration, puisque, personnellement, vous, ça doit être le cas, le vin, c'est le partage. On n'est pas là pour boire seul son vin, hein, tout seul, c'est un partage. Donc, c'est aussi un moyen de s'intégrer. Suivante. Alors, de nos jours, on estime à environ 2,5% de la population. On estime que ce pourcentage-là correspond à des gens qui sont abstèmes, c'est-à-dire qui ne boivent pas d'alcool du tout. Et par contre, il y en a pas loin de 4 millions de consommateurs qui sont à risque parce qu'eux auraient tendance à boire un petit peu trop. Voilà. Donc c'est à la fois, comme je le disais, une force d'intégration sociale, mais c'est aussi un élément de disqualification sociale si on se marginalise en faisant un excès de boissons. Sans parler des risques encourus si on prend un véhicule, évidemment. Suivante. Donc la différence entre l'ivresse et l'ivrognerie, l'ivresse c'est un comportement qui est circonstanciel, l'ivrognerie bien sûr perdure, c'est un comportement à répétition. admirer l'esthétisme et la tristesse de la photo. C'est surtout, quand on aime le vin, il ne faut surtout pas arriver à ce résultat-là, évidemment. Parce que là, c'est de l'abrutissement. Suivant. Donc, les prémices de l'ivresse, la préhistoire et les archéologues ont mis au jour des restes de grains de raisin, qui étaient grillés, bien sûr, pour qu'ils puissent être conservés. Et donc, on peut supposer que les paléolithiques aient connu une certaine forme d'ivresse, tout simplement, on sait qu'ils consommaient le raisin. Mais on peut imaginer que dans une anfractuosité de roche ou dans un tronc d'arbre du raisin, soit volontairement ils l'ont mis, soit par hasard, ce raisin se trouvait là, il a entamé une fermentation naturelle. Et avant l'acidification, s'ils ont goûté, alors ça peut être des raisins, il suffit de végétaux qui ont suffisamment de sucre pour que ce sucre se transforme en alcool. On peut supposer, mais là on n'en a bien sûr pas du tout la preuve, qu'ils aient éprouvé des ivresses aléatoires, justement, parce qu'ils ne maîtrisaient pas, bien sûr, le processus de fermentation. Mais là, on n'est vraiment qu'au niveau des hypothèses. Suivant. Avec le néolithique, là, on a plus de certitudes, puisque là, on a des sites, notamment Choulaviris-Gora, notamment, mais puisque là, nous sommes en Géorgie, avec un vase qui a été trouvé, d'ailleurs, à Choulaviris-Gora, avec une grappe de raisin sur le col, pour représenter. Donc là, on a les plus anciennes traces, à l'heure actuelle, de vinification, avec soit une vigne sauvage, ou soit une vigne qui commence à être cultivée. Voilà, donc là, on peut parler de premières ivresses programmées, parce que là, l'homme maîtrise le processus. Choulaviris-Gora, on est à moins 5000 et quelques, 6e millénaire avant Jésus-Christ. La première trace évidente de vinification, donc avec un pressoir et puis un bassin pour recueillir le jus de raisin, a été trouvée à Areni, dans une grotte, et qui doit aussi se trouver en Géorgie. J'ai un doute, mais si ce n'est pas le cas, c'est pas loin de la Géorgie en tout cas, mais je pense que ça l'est. Et pour la petite histoire, dans cette grotte, il y a aussi la plus vieille paire de chaussures conservée à ce jour. Voilà. Et il y avait aussi des tombes dans cette grotte. Alors de là à penser que le vin servait à un rituel funéraire, c'est possible, on n'en a aucune certitude. Et puis après, il faudrait dater, et même en datant, ça n'apporterait pas une preuve certaine. Il y a eu l'année dernière, à la Cité du Vin à Bordeaux, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont visité, cette Cité du Vin, il y a eu une exposition temporaire justement sur la Géorgie, avec un matériel archéologique extraordinaire, des pièces originales, sauf ce grand vase-là qui était une copie à Bordeaux. Et peut-être pour des raisons de sécurité, ils n'ont pas souhaité le transporter. Et la Géorgie revendique le fait d'être le berceau de la viniculture. Bon, ça reste à prouver, il y a un petit côté chauvin, mais bon, on peut les comprendre. Et même actuellement, ils utilisent des tertres et des couévries, ce sont des grands vases qu'ils enterrent pour conserver le vin. Voilà, et il y a un personnage qui s'appelle le Tamada, et qui est là pour officier dans les banquets. Alors, il y a un vieux mot, parce que j'aime aussi beaucoup la langue française, que vous connaissez peut-être, qui est l'architriclin. Je ne sais pas si ça... Non, l'architriclin. Essayez de retenir, c'est celui qui... vous êtes architriclin de temps en temps, ça j'en suis persuadé, ou je l'espère du moins. Ou alors, le féminin, est-ce que c'est architriclin? Peut-être. Là, je ne me risquerai pas, mais pourquoi pas. C'est la personne qui accueille des gens et qui préside le repas, qui l'organise, etc. Donc, voilà, on dit architriclin, et en Géorgie, on dit le tamadan. Voilà, suivant. Donc, boire à la grecque. Bon, mais là, bien sûr, c'est dans le symposium, qui est une réunion de buveurs. Les Grecs ne boivent pas le vin pur, additionné d'eau dans des récipients, cratères notamment. Parfois, ils vont même jusqu'à ajouter de l'eau de mer. J'ai jamais essayé, même avec un vin de mauvaise qualité, je n'ai pas eu la curiosité pour voir ce que ça peut donner. Et donc, au cours de ce symposium, on peut boire du propoma, qui est un vin tout miellé. On va bien sûr faire des libations aux dieux, et on va pratiquer sur nos 5e et 4e siècles. Alors, assez, ça veut dire antéchristum, hein, c'est Voilà, c'est plus rapide que de mettre devant Jésus-Christ, tout simplement. Et il joue au Gotham. On voit ici ce personnage qui a une coupe. Donc le jeu du Gotham consiste à garder un peu de vin dans sa coupe et de jeter ce reste de vin dans une autre coupe où il y a une sorte de coupelle en équilibre. Et donc, en jetant le vin, on pense à sa bien-aimée et on fait un vœu. Et donc, si on arrive à renverser la petite coupelle qui est en équilibre, le vœu risque d'être exaucé. Voilà, c'était un jeu auquel se livraient les Grecs durant le symposium. Suivante. Donc, Socrate s'est intéressé au vin. Il y a beaucoup de personnages qui sont intéressés au vin. D'ailleurs, là, je viens de terminer un livre, je suis en phase de relecture, où j'ai recensé une galerie, enfin, j'ai bâti, on va dire, une galerie de 100 portraits de personnes qui se sont intéressés au vin. Et donc, il y a un chapitre sur Socrate. Voilà. Donc, le vin adoucit et tempère le caractère, il apaise les soucis de l'esprit. Il ranime nos joies et il est l'huile de la flamme agonisante de la vie. Si nous le buvons modérément et par petites gorgées à la fois, le vin se répand dans notre poitrine comme la plus douce des rosées matinales. Hein, c'est pas mal. Oui, Socrate. C'est un philosophe, mais on va voir que certains n'avaient pas forcément la même inspiration. Suivante. Alors, Eubule, pareil. Alors là, c'est pas deux vers, c'est bien, trois vers, attention les dégâts. Mais là, c'est un peu dans cet esprit-là. Je mélange trois bols pour ceux qui sont sobres, un pour la santé, qu'il vide en premier, le deuxième pour l'amour et le plaisir, le troisième pour le sommeil. Quand ce dernier est vidé, les hôtes avisés rentrent chez eux. Le quatrième bol n'est plus à nous, il appartient à la violence. Le cinquième au tapage, le sixième aux amusements d'ivrogne, le septième aux yeux pochés, le huitième aux gardiens de l'ordre, le neuvième appartient à la crise de foi, elle risque d'arriver avant mon feu, et le dixième à la folie et au vandalisme. Donc il y a toute une gradation, c'est bien dit aussi. Suivante. Alors oui, la question, quand on a trop bu, où tomber ? Ben, ça dépend de quelle boisson on a abusé. Donc si on a célébré un peu trop Dionysos, on va tomber en avant parce qu'on a la tête lourde. Par contre, si on a bu trop de bière, on va tomber en arrière parce qu'il est proprement assommé, l'ivrogne en question. Bon, là, je n'ai pas fait l'expérience non plus, je ne la conseille à personne. Suivant. Oui, c'était Aristote. Boire à la romaine, bon, ben, on retrouve l'influence des Grecs, bien sûr. Les banquets peuvent durer très longtemps. On va filtrer le vin avec de l'eau, ce que je disais tout à l'heure, dans des cratères qui sont de véritables œuvres d'art. Je ne sais pas si vous avez vu certains cratères, c'est vraiment magnifique. On n'a pas le temps aujourd'hui, c'est un match de foot, mais j'ai un diaporama sur les contenants du vin. Là, j'ai une quinzaine de diapositives, les différents contenants du vin, des petits récipients jusqu'au cratère, entre autres. Voilà, donc la comitiatio, ben, c'est la beuverie protocolaire. Les roues sont tolérées, même voire encouragées. Il y a même un édit de Claude autorisant l'émission d'autres bruits gazeux.
Ouais.
Voilà, ça peut être, comme on dit, carminatif. Et alors, Pline l'Ancien regrette, longtemps on fit à Rome un usage parcimonieux du vin. Sous-entendu, maintenant, on est plutôt généreux avec la boisson. Suivante. Alors parfois, les hôtes font preuve de pingrerie. C'est-à-dire que celui qui invite va se réserver des bons vins, et puis si le banquet est assez important, au fond des tables, eh bien on va servir un vin de moins bonne qualité. Les invités n'ont pas le moyen de comparer. Voilà, on fait des petites économies comme ça sur les invités, parce que bien sûr, ces repas, c'est aussi... Il n'y a pas que la convivialité, c'est montrer sa richesse, c'est le repas a une vocation politique également. Les repas sont à multiples facettes. Suivante. Alors arrive un de mes dieux préférés, donc Dionysos, qui entre à peu près au VIe siècle dans le panthéon grec. Son culte, comme vous le voyez, est introduit au début du Ve siècle. Et c'est le fils de Zeus et Sémélé. Donc il y a une petite histoire, Dionysos veut dire qu'il est né deux fois, puisque au départ il est porté bien sûr par sa mère, Sémélé, mais Héra, donc Junon, est jalouse, et va chuchoter à l'oreille de Sémélé, de demander à Zeus de se montrer dans toute sa splendeur. Et donc, Zeus ayant promis auparavant de respecter les désirs de ses mêlées, ben, il obtempère, il se montre dans toute sa splendeur, et bien sûr, ses mêlées n'y résistent pas. Donc, Zeus va prendre Dionysos du ventre de sa mère et va le mettre dans sa cuisse. Donc, il va naître une deuxième fois. Voilà. Donc, mesdames, si un jour vous demandez à vos maris d'apparaître dans toute leur splendeur, soyez prudentes. On ne sait jamais, ça peut arriver. Voilà, donc, alors, Zeus a toute une série d'attributs que je vous laisse découvrir, hein, des végétaux, des animaux, avec des plantes sacrées, évidemment. Le lierre revient assez souvent, puisque dans les tavernes, aux portes, on affichait des branches de lierre, notamment, pour signaler un endroit où on pouvait boire. Voilà, suivante. Donc, il y a, bien sûr, les fêtes, que l'on appelle dionysiaques. Alors, il y a les Dionysies champêtres, ce sont les dites petites, qui courent de décembre à janvier, avec les Lénéennes, hein, qui sont, je crois, au mois de janvier, qui sont la fête des pressoirs, et les Antestéries, qui sont des fêtes dédiées aux fleurs. Et on ouvre les jars de fermentation à ce moment-là. Et les Dionysies urbaines, qui, elles, sont beaucoup plus importantes, qui ont lieu au printemps, à la naissance du printemps, et où on a des cortèges, il y a des pièces de théâtre qui sont jouées, en fait, c'est la fête, avec les débordements parfois que ça peut induire, notamment, et donc l'archonte est obligé de temps en temps, c'est lui qui veille à la sécurité, ou à la bonne marche de la cité, il est obligé parfois d'intervenir. Suivante. Donc les bacchanales, on est dans l'esprit des Dionysies, donc elles arrivent en Italie environ 300 avant Jésus-Christ. Au départ, elles ne sont réservées qu'aux femmes, qui vénèrent la déesse Stibla au pied de la lanterne, mais autour début du IIe siècle, on constate la participation des hommes également. Mais comme là aussi, il y a des débordements, puis souvent ça se passe la nuit. Alors ce qui se passe la nuit, ça entraîne aussi un peu des superstitions. Donc les bacchanales sont interdites en 186, il y a une enquête du Sénat, etc. César va lever cette interdiction, mais la pratique publique des bacchanales sera interdite par le Concile de Constantinople en 692. Suivante. Alors parfois, c'est dur quand même, si tu vois ta femme boire du vin, tu l'as.
Du contraire.
Eh bien, oui, ça on pourrait dire, si tu vois ton mari plutôt boire du vin du leu, oui, ben oui, bon, ça c'était quand on... Bon, quand on voit son expression, on peut... Mais souvent on sentait la laine des femmes pour vérifier qu'elles n'avaient pas bu.
Parce qu'elles n'auraient pas bu ensemble, elles auraient bu toutes seules. Hein.
Oui, ouais, peut-être en cachette.
Ça, c'est pas bien.
Voilà.
C'est pas bien.
Donc, la symbolique de Dionysos Bacchus, bon, mais il enseigne un peu la vie au-delà, en quelque sorte. Il personnifie la puissance enivrante de la nature. C'est un dieu à multiples facettes. C'est le dieu de la métamorphose, de l'illusion. C'est lui qui préside au spectacle comique, au drame. Il est dans un peu l'illusion également. Hein, c'est un dieu, mais ce n'est pas un dieu comme les autres. Quoi. Il est un peu marginal. Je vais le dire maintenant, parce que je risque d'oublier après, parce que j'ai fait aussi une présentation sur le vin et le sacré. Et j'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, qu'il existait un saint Bacchus, qui avait été martyrisé au IVe siècle après Jésus-Christ. Et il aurait été... Bon, je l'ai vu sur deux sources, mais bon, on peut penser que c'est vrai. Il aurait été désacralisé en 1969 pour raison d'intempérance. Je trouve ça extraordinaire. J'ignorais qu'il y avait un saint Bacchus. Alors, en plus, le rétrograder parce qu'il boit trop, je trouve ça sympathique. Voilà, suivant. Alors, les Gaulois, oui, doivent leur mauvaise réputation, notamment à Diodore de Sicile, mais bon, il ne faut pas oublier que c'est un Romain qui regarde les Gaulois, et il n'est pas tendre. Aimant le vin jusqu'à l'excès, ils engloutissent celui que leur portent les marchands, ils boivent avec une passion furieuse, et se mettent hors d'eux-mêmes en s'enivrant jusqu'au sommeil et à l'égarement. Voilà, mais là, c'est un trait qui est forcé, suivante, on va le voir, puisque le vin coûte cher, et en général, il va être réservé plutôt aux guerriers. Les Celtes, donc les Gaulois, boivent plutôt de la bière d'orge, hein, de l'hydromel, des infusions à base de cumin, vous voyez. Et ils se servent de l'écume de la bière, comme ferment pour le pain aussi, les femmes l'utilisent pour se maquiller. Ça, je ne vois pas comment.
Mais...
Voilà. Donc c'est plutôt une vision romaine et à la fois des historiens du 19e siècle, qu'on retrouve un peu dans Astérix. Hein. Mais le vin est quand même cher, donc on le réserve aux guerriers pour leur donner un peu de tonus lorsqu'ils vont au combat. Suivante. Alors la bière, c'est alors au niveau du Moyen-Âge, on a peu de documents concernant, surtout dans les couches populaires, on a peu de documents concernant la consommation à la fois du vin et de la bière. On suppose, parce que ça a perduré, que les paysans ou les citadins boivent une sorte de piquette, ou une repasse sur le mou. Mais la boisson la plus fréquente, c'est une boisson qui est païenne, donc, mais qui a été christianisée, c'est la bière, puisque la bière a aussi un saint, Saint Arnoux, qui était le précepteur de Dagobert et qui réitère le miracle des noces de Cana à son enterrement, de l'eau se transforme en bière. Il y a une île en Grèce qui est l'île d'Andros. Il y a un temple où sourd une source et une ou deux fois dans l'année, l'eau se transforme en vin. C'est on retrouve. Voilà. Suivant. Alors, la règle de Saint-Benoît, que moi j'essaie d'appliquer. Donc, Saint-Benoît veillait à encourager le travail manuel et la réflexion par égal. Donc cette règle a été suivie de façon assez rigide par les chartreux et les trappistes, un peu moins stricte par les bénédictins. Et donc Saint-Benoît préconisait une émine, donc environ 27 centilitres de vin chaque jour, sauf en cas de grosse chaleur, donc aujourd'hui je ne sais pas jusqu'où on pourra aller, ou pour des fêtes ou des travaux conséquents. J'ai fait cette présentation à Saint-Céré, invité par Henri Fontanier, ouais. Et au moment de commencer, j'ai un ami qui est arrivé avec un alcotest qui m'a fait signer, qui m'a fait souffrir, en disant, voilà, ben, tu vas faire une conférence sur les principes, on y arrive, vérifions de moi. C'est excellent, c'est bien. Suivant. Alors, il y a des dérives pécamineuses liées au péché, puisque donc l'émine, qui s'appelle aussi justice, on peut lui ajouter une charité de vin, du pigmentum, donc qui est un vin aromatisé avec du miel, cannelle, girofle, comme c'est fréquent au Moyen-Âge. Puis ça masque aussi certains goûts. Alors là, il y a problème de dissidence à Cluny. Certains trouvent qu'on force un peu trop sur la boisson et la nourriture, donc on va fonder Cîteaux. En essayant de prôner l'abstinence, mais malheureusement, ce Cîteaux se trouvant sur la route Lyon-Trèves, où il y a un commerce du vin, et puis ils vont replonger, pareil. Et... Voilà. Suivante. Alors, au niveau des ecclésiastiques et des aristocrates, bon, on boit un vin de meilleure qualité, mais c'est un vin, de toute façon, qui est élaboré à la hâte, puisqu'on ne connaît pas encore le soufre, hein, pour stabiliser le vin. Donc c'est un vin qu'il faut boire très rapidement. D'ailleurs, vous voyez, quand vous regardez un tonneau de face, il y a une barre horizontale au lieu du tonneau. Alors, j'ai demandé à plusieurs vignerons si cette barre avait un nom. Aucun n'a pu me renseigner pour le moment. Donc cette barre-là, eh bien, le vin qui était au-dessus de cette barre sera vendu plus cher que celui qui est en dessous. Parce que forcément, celui qui est en dessous, quand on y arrive, il commence déjà à se piquer. Hein, donc... Voilà, c'est un vin qu'il faut boire très rapidement. Et puis, on ne connaît pas encore les cépages vraiment. Maintenant, avec l'ADN, etc., on arrive à découvrir la filiation des cépages. On a sans doute des noms de cépages, mais à quel cépage contemporain ils correspondent, c'est souvent difficile. Voilà, suivant. Alors parfois, il y a ripaille et large soif, donc ça c'est des exemples que j'ai trouvés dans certains ouvrages que je vous montrerai en fin de diaporama. Donc en 1307, le roi anglais Édouard II va se marier, il commande 1000 tonneaux, donc ça fait 1 200 000 bouteilles, essentiellement du Bordeaux, pour fêter son mariage à Londres. Ouais, c'est pas rien, mais bon, il a arrosé toute la capitale.
Oui.
Voilà, il fallait montrer sa largesse. Donc le vin est aussi un atout diplomatique, c'est va aider à la diplomatie si on veut être bien vu par tel ou tel roi, et bien on va acheter du vin ou certaines nobles de Bourgogne, etc. Bien on va acheter son vin. Hein, voilà. Ça se fait. Vous devez connaître le château Pétrus, hein, qui est un excellent port-roll que je n'ai pas bu parce que c'est cher. Et donc, c'était la famille Mouex qui était propriétaire à l'époque. Elle doit l'être encore, peut-être même. Et lors du mariage de la reine Élisabeth, ils ont envoyé des caisses de Pétrus offertes à la reine. Donc, ce vin a été bu au moment du repas. Et après, bien sûr, il y a eu des commandes. Et là, pareil, avec, je ne connais pas le nom, le mariage d'un fils. Harry, c'est ça. Mais je ne sais plus quel. Harry et Meghan. C'est le dernier, là, celui qui est revenu. Ah, c'est ça, Harry. Et bien, il y a des vignerons, je me souviens plus de Bourgogne blanche. Blanc, c'est ça, hein. Et pareil, et depuis, ils ont vu les ventes et les exportations vers l'Angleterre grimper, ce qui est intelligent. Suivante. Donc, quelques mots concernant l'ébriété. Donc, l'ébriété, ébrietas, la première occurrence est en 1130. Ivre, enivré, enivrement, le 12e aussi. Ivrognerie, 14e, ou ivronier, ivrognesse, 16e. Un autre mot que j'aime bien, c'est vinolence. Hein, c'est le mot que j'aime bien, la vinolence. Et Michel Onfray, le philosophe, en a inventé un, c'est l'ivreté. Et qui est pas mal aussi. Voilà. Suivante. Donc l'Église va bien sûr essayer de cadrer la consommation de vin chez au clergé, hein, régulier ou séculier. Donc il y a toute une série de conciles que je vous laisse découvrir qui vont cadrer un peu la consommation et punir les ecclésiastiques qui ont un peu trop forcé sur le vin. Ils peuvent être suspendus d'office et de bénéfice, sauf s'il faut un rendre honorable. Donc, je ne sais pas, là, c'est une parenthèse qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas si le prêtre qui a giflé l'enfant au baptême, si avant il avait forcé un peu sur le vin ou pas. Non. En tout cas, il a été mis à pied. Hein.
Il avait 90 ans.
Oui, pas moyen. Donc, je crois que, enfin, je l'ai dit de toute façon, je ne sais pas rien, mais non, c'était peut-être mon dernier baptême.
Mais... Il était gâteux,
ce que je pense. C'est vache, hein. C'est pas une chose à faire. Ah, voilà. Donc, ils vont être interdits de cabaret, de taverne, sauf s'ils sont en voyage. Suivante. Et donc Louis IX va l'interdire, lui, en 1254, il va interdire les tavernes aux habitants.
Voilà. Ah, carrément.
Carrément. Donc, nul ne voit se boire en taverne, ce il n'est très passant, ou tel, il n'est point de maison ou ville.
Ouais. Voilà. Ça n'a pas dû marcher.
Voilà. Donc, on est habitant de Brive, on ne peut pas aller dans une taverne à Brive.
Ouais.
On peut aller un peu plus loin, mais bon, il faut y aller. Hein. Oui, aussi. Mais on va le voir, les gens ne buvaient pas beaucoup chez eux. Hein. C'était, à cette époque-là, c'était dans les cabarets. Suivant. Bon, heureusement, Rabelais arrive. Donc là, on va pas le présenter, notre ami Rabelais. Donc nous maintenons ici que non pas rire, mais boire est le propre de l'homme. Je dis boire du vin bon et frais. Voilà, donc c'est le symbole de la vie pour lui. On a gardé l'adjectif rablaisien. Voilà. Et qui est une porte ouverte aussi, qui encourage la fécondité artistique, créatrice. Le vin est censé apporter la petite étincelle supplémentaire à l'imagination. Suivant. Alors, trois types de cabarets, mais c'est vrai que, d'après les historiens, c'est pas tranché. Hein, mais bon, il y a les cabarets à pot et à pinte, où là, on va vendre la boisson au détail, les à pot et à assiette, donc là, on peut y manger, et les auberges, on peut y manger et dormir. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, enseigne souvent un bouchon de lierre. Voilà. Suivante. Alors, la première répression de l'ivresse, une répression directe cette fois-ci, c'est François Ier qui, rédige un édit en 1536 qui va condamner les gens qui, sur la voie publique, font preuve d'ivresse. Donc il y a une gradation, on va commencer par la prison, pain et eau. Si on récidive, on sera battu en prison, donc là ça reste encore confidentiel. Si on continue, ben là, on va être battu en public. Ensuite, si vraiment on persévère dans le vice, eh bien, on va être victime d'essoriment, c'est-à-dire on coupe les oreilles. Et ensuite, c'est le bannissement. Mais cet édit n'a jamais été appliqué à la lettre. On va le voir, c'est de la théorie, mais qui ne peut pas se mettre en pratique. Suivant. Alors, c'est vrai que l'Église donne le mauvais exemple. Il y a plusieurs mauvais exemples donnés par l'Église, notamment Noé, qui s'enivre. C'est vrai qu'il a porté un moment sur ses épaules tout le destin de l'humanité, hein, avec son arche, etc. Il plante la vigne, et puis bon, et ben, il a abusé un petit peu du sang de la vigne, ce qui ne l'a pas empêché de mourir à 950 ans quand même. Hein. Donc, ce soir, devant votre verre de vin, vous pouvez vous dire que vous vous prolongez un peu plus. Voilà, mais par contre, bon, il fait preuve de... Il est tenu, et c'est Charles qui va... recouvrir son père. Voilà. Donc ça, c'est le premier mauvais exemple. Suivant. Le second, du moins que j'évoque, c'est Lot, bien sûr, puisqu'il va, avec ses filles, fuir Sodome. Alors, si j'ai bonne mémoire, sa femme était là au départ, mais elle s'est retournée, elle a été transformée en statut de sel. Elle, c'est ça, voilà. Et donc, les filles, voyant qu'il n'y a pas d'homme pour assurer... procréation, une génération suivante, eh bien, elles vont enivrer le père et, en quelque sorte, abuser de lui. Voilà. Et de là naîtra de généalogie, Moab et Ben Ami. Voilà. Donc, c'est vrai que l'Église, d'un côté, donne le mauvais exemple. Hein, c'est suivante. Alors, on va essayer d'encadrer la consommation dans les cabarets en sanctuarisant le temps divin, le temps de la messe. C'est-à-dire que les cabarets doivent être fermés pendant la messe, pendant certaines fêtes, et après, bon, alors il y a plein de règlements d'été, d'hiver, des heures d'ouverture, des heures de fermeture, mais qui ne sont pas les mêmes à Paris, à Lyon, à Marseille ou à Brive. Hein, il y a des disparités à l'échelle du royaume. Voilà. Donc on va, d'un côté, on aura l'ivresse matérielle, et puis il va falloir préserver l'extase spirituelle, en quelque sorte. Il ne faut pas que les deux... entre en concurrence, et on privilégie bien sûr l'extase spirituelle. Suivant. Donc Montaigne, le philosophe Montaigne, d'un ancien usage que son médecin ordonnait à mon père, on mêle le vin dès la sommellerie, c'est-à-dire dès la cave, 2 ou 3 heures avant qu'on serve. Mais la coutume de mettre de l'eau encore dans le vin perdure, et on est au XVIe siècle. Je bois, c'est bien pour homme de commune façon, en été et en repas, pour ne pas offenser la règle de Démocrite, qui défendait de s'arrêter à 4, comme un nombre malfortuné, je me laisse aller jusqu'à 3 centilitres environ, ce qui fait quand même 3 fois 50 centilitres, 1,5 litre. Mais le vin est coupé d'eau.
Oui.
Bon, s'il faisait chaud, le vin n'était pas forcément un vin très fort. Le château où habitait Montaigne, à sa tour, autour, il y a un vignoble et on peut encore acheter le vin qui est c'est du Bergerac, qui est correct. En fait. Ce ne sont pas les mêmes vignes, évidemment, hein, parce que ça serait un peu vieille. Suivante. Donc, avec le retour à la verrerie, hein, qui avait disparu avec la fin de l'Antiquité, on va pouvoir commencer à boire le vin dans des verres. Donc là, il y a une idée de transparence, on peut voir les reflets du vin, la robe du vin, alors qu'avant, au préalable, il était dans des coupes ou dans des chopes qui n'étaient pas transparentes. Voilà. Et Montaigne, lui aussi, condamne l'ivrognerie. Pour lui, c'est faire preuve d'un manque de raffinement. Suivant. Alors, néanmoins, on est autorisé à s'enivrer une fois par mois, de façon à ne pas perdre l'habitude ou à piquer un petit peu l'essence. Donc une fois par mois, eh bien, on prend un tout petit peu plus que d'habitude, que de raison. Voilà. C'est pour éviter que l'essence ne s'engourdisse. Suivante. Alors les premières thèses de médecine, on va prendre conscience vraiment de la dangerosité de l'excès de consommation du vin à la fin du Moyen-Âge et au début du XVIe siècle. Et il va y avoir donc des ouvrages qui vont paraître, et le premier qui est consacré uniquement à l'ivresse, c'est le discours de l'ivresse et de l'ivrognerie. Donc oui, j'ai repris l'ivrognerie, on le voit ici, et l'ivresse aussi. de Jean Mouzin. Oui, c'est Jean Mouzin, voilà. Donc, il va consacrer un ouvrage sur les méfaits de l'ivresse, de l'ivrognerie surtout. Mais on a toujours cette différence entre les théories normatives. Hein. On va dire aux gens, voilà ce qu'il faut faire, et puis la réalité, on n'applique pas toujours ce qu'il faut faire. Ça n'a pas changé depuis le XVIe siècle. Et alors, suivante, on va voir les remèdes qui sont assez savoureux. Donc, un de ses collègues, Lemnius Levinus, au XVIe siècle, mouillait d'eau froide les génitoires et parties génitales, et avec une serviette ou un mouchoir, mouillait les lui enveloppés. Pour les femmes, une fomentation ou embrocation des mamelles avec un vinaigre bien fort et appliqué un peu chaud. Bon, là, j'ai trouvé personne pour tenter l'expérience. J'ai dit, allez, je sors une bonne bouteille de Bourgogne, vous faites avec, puis après, on va tester, mais non, personne. Là. J'ai sorti un chevret Chambertin, quand ils ont préféré Bordeaux. Et Jean Mouzin continue dans le même cru. Hein. On lui trempe en quelques temps ses parties génitales et principalement les testicules dans l'eau la plus froide qu'ils peuvent avoir. Il n'y a rien de plus aise et le succès en est favorable. On peut imaginer que ça remet peut-être les pendules à l'heure, je ne sais pas. Mais bon, c'est vrai que c'est assez savoureux comme remède. Hein. Suivant. Alors Marie de Médicis, elle, va revenir sur l'édit de Louis IX. Et donc va autoriser les autochtones, les gens de la ville, du village, à fréquenter le cabaret, la taverne, l'auberge, etc. Avec en arrière-pensée, bien sûr, que pour faire entrer de l'argent aussi dans les caisses du royaume, puisqu'il y a des taxes qui sont prélevées sur le vin. Alors de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, hein, mais je crois que c'est au 18e. Les taxes, les octrois sur le vin, c'est à Chartres, correspond à 75% du budget municipal. Ouais, c'est énorme, hein, c'est énorme. Voilà. Suivant. Voilà, donc, voilà, parce qu'elle disait que l'édit de Louis IX apportait beaucoup d'incommodité entre les bourgeois, les habitants et artisans des villes, et perte aux fermiers des aides. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis rouge, hein, c'est une des raisons quand même, de ce bourré prétend diminution sur les fermes de Sa Majesté. Donc il y a un souci un peu pécunier. Suivante. Mais l'ivresse est aussi évoquée de façon agréable, avec notamment Nicolas Poussin. Hein, on a une vision un peu idyllique avec les muses. On associe le vin, bien sûr, avec les arts. Donc là, c'est une vision plus idyllique. Voilà, et puis l'influence de la Pléiade, notamment, va dans ce sens. Suivante. Donc là, on retrouve l'idée de transcendance à laquelle on peut prétendre si on boit du vin. C'est-à-dire qu'on va sortir de soi-même pour avoir accès à des réalités qui, normalement, nous échappent. C'est cette vision-là. Après, on la partage ou on ne la partage pas, évidemment, hein, mais c'est un peu ce qu'il y a dans l'air des temps à cette époque-là, avec notamment Erasme. Suivant. Alors, au niveau des tableaux, au niveau de la peinture, on va voir arriver les premiers tableaux qui évoquent le vin et qui évoquent le vin de façon négative. Là, on est dans un des... Enfin, là, non, j'anticipe, pardon. Là, on est dans le fait de boire sans y être forcé. On est dans le cadre de la religion. Donc, la volonté spontanée, savoir réfréner ses bas instincts. Voilà. Parce que je voyais un tableau, c'est pour ça que j'anticipais. Voilà. Alors, par contre, c'est vrai que je l'évoque, là, dans le diaporama sur le vin et la religion. Dans la Bible, on a calculé... Il y a Didier de Gouin, je crois, qui a fait un dictionnaire amoureux de la vigne, de la Bible, pardon. Et puis d'autres auteurs, il y a Thésar, qui est docteur en histoire maintenant, qui a recensé aussi. Et lui, il arrive à peu près à 600 occurrences. Didier de Gouin, il en est à 450-500 de mémoire. Hein. 500 ou 600 occurrences de termes ayant trait à la vigne, le vigneron, le cèpe, etc. Hein. Voilà, donc c'est énorme. Le vin est omniprésent dans la religion catholique et protestante aussi, évidemment. Suivant. Voilà, alors là on y est. Donc la première représentation négative, donc on voit un jeune qui joue du pipeau, on peut supposer qu'il a un peu forcé sur la boisson. À droite, un personnage est en train de remplir un pichet de... Et la servante, bien sûr, est en train de prendre la bourse de la personne qui a abusé de vin. Donc ça veut dire, attention, si vous perdez un peu de votre méfiance, de votre prudence, si vous vous enivrez. Donc c'est une des premières représentations, sinon la première. Donc on est au début du XVIIe siècle. Suivante. Pareil avec le nez, la rixe. Alors à Saint-Amand, c'est fascinant parce que ces personnages-là, ils ont l'air très calmes. Il y en a un qui tient des cartes, il y en a un à gauche qui regarde le spectateur, et il y a un jeune derrière qui s'apprête à asséner un coup d'épée sur le personnage qui a les manches rouges là, avec sa cuirasse. Et qui est prêt à sortir son épée du fourreau, mais on n'a pas vraiment, la sensation qu'ils se disputent. Hein, c'est un tableau assez statique, c'est un peu bizarre. Moi, je l'interprète comme ça, j'ai du mal. Voilà. Enfin, bon, là, c'est une rixe suivie lorsque dans les cabarets, ben, on abuse trop d'alcool et notamment de vin. Suivante. Alors celle-ci ce tableau-là est très intéressant. Donc c'est Les buveurs de Claude Vignon, parce que là on a la première allégorie entre la comparaison entre l'ivresse et l'ivrognerie. Donc à gauche, vous avez un personnage qui est jeune, qui a une main, donc la main gauche en appui sur la table, qui tient son verre, mais il le tient droit quand même, qui regarde le spectateur, qui a l'aider. Son habit est en vert et en jaune. Apparemment, c'est la couleur des fous, les fous de cour. Et il trinque, il prend le spectateur à témoin, il trinque avec lui en quelque sorte. Donc là, lui, représente, c'est l'allégorie de l'ivresse. Par contre, le vieillard qui est à droite, qui regarde en dehors du cadre du tableau, lui symbolise l'ivrognerie. Le jeune a un chapeau rouge parce qu'il a le vin qui lui montait à la tête. Le personnage de droite, lui, est quasiment tout rouge parce qu'il est imbibé par le vin. Il tient à peine droit, même la bouteille est penchée. Et puis on sent qu'il est négligé dans sa coupe de cheveux, dans sa longue barbe, etc. Donc c'est la première allégorie qui représente à la fois l'ivresse et l'ivrognerie. On peut espérer que le jeune de gauche ne deviendra pas le vieillard de droite. Voilà. Suivante. Donc, toujours pareil. Alors, le tableau est attribué à Le Nain, mais il y a quelques doutes. Donc, c'est le savetier ivrogne et sa famille. Et on voit que le savetier tient fermement la bouteille palissée. Et sa femme lui montre le bébé, qui pleure. Ça doit être sa mère ou sa belle-mère. Et son épouse est derrière. Et le chat en profite pour prendre le fromage. Ça symbolise que, vous voyez, là, c'est le désordre dans la famille. Les animaux profite du désordre pour voler un camembert, enfin, un fromage. Le camembert existait peut-être pas encore au XVIIe, je pense pas. Suivante. Donc pareil avec Greuze, le retour de l'ivrogne. Bon, ce sont des tableaux qui sont connus. Diderot, un artiste doit rendre la vertu attrayante, le vice odieux, le ridicule violent. Ouais. Suivante. Donc là, une dégustation champêtre, et là, on a un aspect positif. Voilà le tableau de Nicolas Poussin. Donc là, c'est une scène où il y a une muse, une dame qui joue de la guitare. C'est une Bacchus qui sert à boire. On n'est pas là forcément dans la pratique de l'ivrognerie. C'est plutôt une consommation raisonnable, raisonnée, là, que montre Nicolas Poussin. Suivante. Alors, Louis XV a commandé deux tableaux, on va les voir, c'était pour Versailles, je pense, dans un pavillon de chasse. Donc, le premier, c'est le déjeuner d'huîtres, donc c'est intéressant déjà pour voir les pratiques de table. Hein. Ils boivent du champagne. Le champagne, alors ça c'est une grande question, on dit que le champagne a été inventé par... c'est la chaleur. Dom Pérignon, qui est contemporain exactement de Louis XIV, date de naissance et date de décès, 1715, décès, tous les deux. Mais a priori, Dom Pérignon n'a pas inventé le champagne, puisque le plus vieux vin mousseux c'est la blanquette de Limoux, et donc on est en 1520-30 par là. Hein, donc voilà. Donc les historiens pensent que Louis XIV n'a jamais bu de champagne, et que Dom Pérignon est un très grand vinificateur, mais il n'aurait pas inventé le champagne, parce que il y avait une personne qui avait été expulsée du royaume de France, qui s'appelait Charles de Saint-Évremond et qui était à Londres. Et il s'était transformé en importateur de vin, et le vin n'étant pas très stabilisé, eh bien, il faisait une seconde fermentation, le vin blanc. Et pour les Français, c'était un défaut, mais les Anglais, si on rajoutait un peu de mélasse, un peu de sucre, ben, ils trouvaient ça très très bon. Donc c'est plutôt Charles Saint-Évremond qui s'est servi de ce processus naturel et qui a vraiment donné naissance au champagne tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Alors, il y avait certains articles de presse qui sont parus en disant, pour titiller un peu la fierté nationale, ce serait peut-être les Anglais qui auraient inventé le champagne. Mais bon, donc, c'est pas possible. C'est pas possible. De toute façon, s'il y a des preuves, il faudrait le mettre dans un coffre et puis.
Il
ne
faut pas en parler à
Reims. Non, il ne faut pas en parler de ça. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez où est le bouchon de champagne?
Non. Il doit être très haut.
Il est assez haut, oui. Mais on le voit, c'est normal, on ne peut pas le voir. Ah, c'est un peu fou, il est là.
Oui.
Voilà, il est là, le bouchon de champagne.
Il a sauté.
Il a sauté, oui. Suivante. Donc, pareil, le second tableau, déjeuner de jambon. Voilà, un repas de noble, une belle nappe blanche, et puis il y en a un qui vient monter sur la table, et puis on voit tous les cadavres de bouteilles qui jonchent le sol. Le champagne, vraiment, on commence à le boire à la Régence, et sous Louis XV. Suivant. Donc quelques chiffres, donc sous Louis XIV, on estime qu'il y avait environ 20 millions de sujets. À Paris, au XVIIIe, on a entre 1500 et 2000 débits de boissons, pour une population d'environ 400 000 habitants. Et 80 000 taverniers dans la France de Louis XIV, qui représente environ 1 pour 250, ce qui est pas mal.
Ah oui,
ouais, quand même. Suivante. Bon, l'enivrement est plus fréquent dans les lieux publics, on boit rarement chez soi, parce qu'on a peu de boissons à la maison, et l'ivresse est quand même se cantonne souvent au jour de repos le dimanche, ce qui a fait dire à Voltaire et à Rousseau, je crois, qui pour une fois étaient d'accord, qui disaient qu'il ne fallait pas que le peuple chôme le dimanche parce que c'était prétexte à surconsommation de boissons. On va retrouver Rousseau à la fin dans une de ses citations, voilà, qui vont vous plaire, mesdames, je pense. La suivante. Voilà, donc Bossuet à Louis XIV, dans son sermon sur les devoirs d'un roi, si le prince entreprend d'exterminer tous les pêcheurs, la terre sera déserte et son empire désolé. Donc voilà, donc l'éradication, c'est une illusion, c'est pas possible. Et puis on voit que ça, au niveau des aides et des octrois, c'est une source de revenus qui est loin d'être négligeable pour les dirigeants. Suivante. Même constat chez le baron d'Holbach, qui meurt en 1789, mais il ne meurt pas sur la guillotine, et il meurt quelques mois avant la Révolution. Voilà, l'intempérance du peuple est regardée comme un bien pour l'État. Voilà, c'est un constat réaliste, hein, tout simplement, qu'il dresse. Une diminution dans les finances et le peuple devenait plus sombre et plus raisonnable. Et on retrouve cette idée-là. Suivante. Donc, par rapport à la tentative de répression directe de François Ier, bon, on voit qu'il n'y a aucune trace d'application de l'édit de 1536, aucune condamnation pour état d'ivresse stricto sensu, c'est-à-dire que on va condamner la violence, on va condamner le bruit sur la voie publique, mais tant qu'elle ne trouble pas l'ordre public, l'ivresse est acceptée. Alors on peut avoir un vin d'âne, je ne sais pas si vous savez ce qu'est un vin d'âne, c'est un vin où on rit bêtement, simplement. Un vin de serre, c'est un vin où on est triste, on pleure, ce sont des expressions, voilà. Et un vin de lion, bon, vous voyez ce que c'est un vin qui, on devient violent. Hein, voilà. Donc ces normes, là, cette volonté normative ne se traduit pas dans les faits. Suivant. Oui, parce que le vin, comme on l'a vu, c'est le prestige. On va pour les grands événements, il va y avoir des fontaines de vin, où le vin va couler à flot, hein, pour la population, pour montrer son pouvoir, pour fêter un grand événement, etc. Donc on est dans la sociabilité, le compromis. C'est aussi une soupape de sécurité, en quelque sorte. Suivant. Donc en 1784, hein, il va y avoir le mur des fermiers généraux, qui a fait dire le mur murant Paris, rend Paris murmurant. Hein, où donc là, il va y avoir deux poids, deux mesures. Soit, lorsque si on est intramuros, on ne paiera pas la pinte de vin, qui vaut presque un litre. C'est pas la pinte anglaise, là, qui fait un peu plus d'un demi-litre. Vous voyez, dans intramuros, on va la payer 8 à 9 sous, et extramuros, 4 à 5 sous. Donc ça vaut le coup pour les gens de se déplacer pour aller, voilà, avec la naissance de toutes les guinguettes autour, donc, voilà, qui vont fleurir. Donc en 1791, on supprime les barrières d'octroi. Le vin est déclaré boisson égalitaire, républicaine et patriote, mais on va se précipiter pour créer des droits et des taxes sur le vin. On ne va pas les abandonner. Suivante. Voilà, donc en conclusion, l'Ancien Régime, on a des oppositions religieuses, malgré que l'Église n'ait pas toujours donné le bon exemple, politique, morale, économique et médicale. Mais on a, d'autre part, on a quand même un culte de l'enivrement qui est hérité, hein, de génération en génération, qui a un pouvoir sociabilisant, même si des fois ça peut se traduire par des rixes. Et voilà, donc l'ivresse peut provoquer un lien social. Donc chasser le mal de vivre, prévention contre les tensions sociales, voilà tous les attributs du vin également. Suivante. Donc arrive le bouilleur de cru. Donc en 1806, on commence à privilégier ce bouilleur de cru. Et alors, moi j'ai été effaré par le nombre de bouilleurs de cru quand même. En 1951, il y en a 3 100 000 en France, et la population est 42 millions d'habitants. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc ils ont un réel pouvoir, et les politiques, les ménages. Évidemment, il vaut mieux les avoir avec soi que contre soi. Suivante. Alors le premier médecin qui va théoriser l'alcoolisme en tant que tel, c'est un Suédois, Magnus Hus, qui a vécu au XIXe siècle, assez vieux d'ailleurs, et qui va apporter une définition de l'alcoolisme. Donc c'est l'ensemble des conséquences pathologiques d'une consommation excessive de boissons alcooliques. C'est le premier qui théorise l'alcoolisme en tant que tel. Suivant. Donc, au XIXe siècle, on aura de 1851 à 1880 une période coercitive vis-à-vis de la consommation des boissons. Mais par contre, à partir de 1880, il va être de bon ton d'être vu en train de boire, pas forcément du vin ou des apéritifs. Hein. On le voit sur cette carte postale, c'est bien, c'est la mode de s'afficher maintenant à l'extérieur. Voilà. Et donc, la belle époque, on s'ouvre à l'extérieur, on s'étonne dans la rue. Suivante. Donc, fin 19e, vont naître certaines sociétés anti-alcooliques. La première, c'est la Société française de tempérance, avec des membres illustres, Pasteur, qui a une vigne dans le Jura, hein, Littré, Claude Bernard, le baron Haussmann. Mais c'est une société qui n'est pas virulente, hein, qui va opposer le vin et l'alcool. Le vin, c'est une boisson naturelle. C'est le vin médecin également aussi, alors que l'alcool, tel l'absinthe bien sûr, là ça nuit vraiment à la santé. Donc on ménage le vin, mais par contre on attaque l'alcool. Alors, on le voit bien sur la fiche, l'alcool, voilà l'ennemi, et on voit une bouteille d'absinthe. Suivante. Alors l'Union française anti-alcoolique, l'UFA, là, prône l'abstinence totale. Son fondateur, Paul-Maurice Le Grain, est intransigeant. Pas de consommation d'alcool du tout. Et on voit au fil du XIXe siècle qu'en 1840, par exemple, il fallait une demi-journée de travail pour acheter 2 litres de vin à 8 degrés. Mais au cours du XIXe siècle, le pouvoir d'achat va quand même augmenter, même si les ouvriers ne sont pas riches. Mais on a une augmentation du pouvoir d'achat avec une baisse du coût de revient du vin. Ce qui fait qu'en 1906, une heure de travail suffit pour acheter 2 bouteilles de vin, de degré 10 en plus, hein, avec un vin un petit peu plus fort. Voilà. Suivante. Alors, autre ligue, autre association, la Ligue nationale contre l'alcoolisme. Donc, pareil, ils disent, nous ne faisons la guerre qu'à l'alcool et aux innombrables liqueurs fabriquées avec lui. Nous défendons le vin, la bière, le cidre, à la condition que ce ne soit pas de dangereuses falsifications. On fait toujours ce distinguo entre le vin et les alcools. Suivante. Et en même temps, on va favoriser la consommation du vin avec un comité national de propagande en faveur du vin, le CNPFV, qui bénéficie d'un budget extraordinaire, même de 5 millions de francs à l'époque, avec une publicité qui est ouvertement nationaliste. Et on voit la carte de France, buvez français, et vous serez, voilà, et vous vivrez joyeux. Avec des dessins qui sont assez jolis, en fait. Il y en a certains qui sont bien réussis. Alors, l'AMPA, je ne sais pas comment on prononce cet acronyme, c'est l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie qui existe toujours, hein, qui a été créée en 2002, qui a bénéficié d'un budget, qui bénéficie encore d'un budget énorme. Hein, avec, alors, j'ai pas les chiffres les plus récents, mais en 2012, entre 2000 et 2012, elle est passée de 569 à 1070 salariés, quand même, financés avec des subventions publiques et puis des fonds propres. Et cette ANPA, je crois qu'on peut prononcer, va sévir et va saisir la justice vis-à-vis de certaines publicités. Donc il y a la loi Evin, bien sûr, mais va essayer de faire interdire certaines publicités qu'on va voir qui, à mon avis, ne méritent pas de l'aide. Suivante. Voilà, la première a été censurée en 2005, ils ont obtenu gain de cause. C'était pour les vins de Bordeaux, buvons moins, buvons meilleur, mais c'est considéré par cette association comme une incitation à boire. Et buvons moins, buvons meilleur, si on prend un ou deux verres de vin par jour, il n'y a aucun risque. Il y a un grand cancérologue là, qui s'appelle Kayat, je crois, hein,
oui.
qui prône un usage modéré. Deux, trois verres, voilà, deux pour les femmes et trois pour les hommes.
C'est pas mal, ça. C'était un pour les femmes, deux pour les
hommes. Non, on est deux, trois. Et après, ça dépend de son mode de vie. Si on, voilà, si on reste pas assis dans son fauteuil, si on a des activités et tout. Après, ça dépend de son physique.
Du degré d'alcool.
Du degré d'alcool. Si on l'accompagne, si le vin est de qualité, si on l'accompagne avec des mets, bien sûr, il faut prendre en considération la façon de s'alimenter, quoi, évidemment. Hein. Suivante. Pareil ici, ces deux vers sont humanisés, ils trinquent. Donc,
mais ils penchent là quand même.
Ils penchent, oui, parce qu'ils trinquent. Voilà. Donc censurés quand même en 2008, ils ont obtenu gain de cause, là c'était les vins de Loire. Suivante. Donc là, le procès a duré pas mal, mais quand même les vignerons, je pense, les 9 ans de procédure, la cour d'appel de Versailles a donné raison aux vignerons, parce qu'on leur reprochait d'être trop beau, de ne pas faire vigneron, alors qu'en réalité, ce sont des vignerons, hein, aussi bien la dame que le monsieur. Là, alors la dame lève le verre un peu trop haut, quand on va chercher des détails comme ça. Il faut se souvenir quand même que l'Espagne, le verre en Espagne est considéré comme... patrimoine, hein, c'est dans les textes. Donc, eux, ils ont une politique de promotion du vin et d'une consommation raisonnée, alors que là, on n'est pas du tout dans cet ordre d'idées. Suivante. Alors, les vignerons qui ont été échaudés, eh bien, ils vont s'adapter. Donc là, vous avez une publicité destinée à l'étranger. Donc, on est sur la Gironde, là, c'est pour les Bordeaux. Avec un couple qui dîne, un coucher de soleil, etc., et un côté romantique, voilà, avec une bouteille de Bordeaux qui se détache bien, voilà, et suivante. Et voilà la même, mais pour publicité en France. La même, mais sans les personnages. On les a supprimés, on les a effacés. Voilà, suivante. Alors, voici d'autres, bien sûr, associations. Bon, Vichy, bien sûr, pendant l'occupation, a édicté des lois aussi visant à réduire. Alors, je suis en train de lire un livre qui est très intéressant sur le vin en France pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est extraordinaire. On voit notamment les vignerons bourguignons qui vendent le vin au wine-fourreur. Hein. Et je crois que c'est en 1940, en deux mois, ils font autant de chiffres d'affaires que l'année 1939. Ils vendent à fond. Hein. C'est très intéressant à lire. J'en suis au premier tiers, hein, mais c'est vraiment très intéressant. Hein. Bon, après d'autres, les alcooliques anonymes en 1960. Et en 1991, le comité de la santé publique. Alors, je ne me souviens plus trop de la date, je crois que c'est dans les années 60-70. Le fait de boire en conduisant, si on avait un accident, était considéré comme une circonstance atténuante. Et on ne pouvait pas vous faire souffler parce qu'on considérait que la voiture était un domaine privé. Donc je ne me souviens plus exactement, selon les sources, les années varient un peu, mais on est autour de 1965-70, je crois pas.
Ah oui.
C'est assez extraordinaire. Oui, il y avait moins de voitures, mais enfin, il suffit qu'il y en ait une en face, et puis avec deux grammes. Voilà Rousseau dont je parlais tout à l'heure, qui fait vraiment preuve d'une misogynie insupportable. « Jamais peuple n'a péri par l'excès du vin, tous périssent par le désordre des femmes. » La raison de cette différence est claire, le premier de ces vices détourne des autres, et le second les engendre tous. Donc, voilà. Ça ne vous donne pas trop envie de relire les confessions, moi non plus. Mais heureusement, il y a quand même d'autres écrivains, suivantes. Voilà, Baudelaire, bien sûr, qui a chanté le vin dans les fleurs du mal, notamment quatre poèmes. Si le vin disparaissait de la production humaine, je crois qu'il se ferait dans la santé, dans l'intelligence de la planète un vide, une absence plus affreuse que tous les excès dont on le rend coupable. Ouais. Hein, là, je pense que Baudelaire a bien mieux compris que Rousseau. Suivante. Donc, moralité, c'est les Grecs hein, qui nous rappellent, pas de métron Aristote, de la modération en tout, tout simplement. Et c'est une bonne philosophie. Hein, qu'il faut essayer de tâcher de suivre. Pour la suivante, on va aborder les tonneaux auxquels je me suis abreuvé. Donc deux historiens qui travaillent bien sur l'histoire du vin, qui sont universitaires, hein, Didier Nourisson, donc Cru et cuit, l'histoire du buveur. Et ça se lit vraiment très très bien, hein, c'est Nicolas Roux, on pourrait dire. Suivant, Mathieu Lecoutre également, donc Ivresse et Ivrognerie, on retrouve le tableau évoqué tout à l'heure. La suivante. L'un d'autre de Mathieu Lecoutre que j'ai lu aussi, qui est très intéressant. Il ne s'intéresse pas uniquement au vin. Hein. C'est boire en France depuis le Moyen-Âge, qui est récent, puisqu'il est 2017, donc parmi en fin d'année dernière. Suivante. Voilà, je termine toujours mes diaporamas par le chat, parce que j'aime beaucoup le chat. Donc, nous, les danseurs, sommes astreints à faire 3 heures de bar par jour. Voilà, le pauvre, on va l'appeler. Voilà, merci.
Il y a quand même eu des périodes, dans la guerre de 14-18, où les soldats étaient vraiment crevés.
Oui, on dit que les musulmans de 1917, et c'est ce que certains...
Oui, quand on les a envoyés au combat aussi, on les fait pas.
Ah oui, juste avant.
Oui, c'est énorme. J'ai les chiffres en tête, mais c'est énorme ce qui se consommait.
La modération.
Et puis, ils pouvaient en acheter aussi, parce qu'il y avait des sortes d'épicerie en Pologne, ils pouvaient en acheter également.
Beaucoup sont revenus à Pologne.
Oui, ça n'était pas avant, mais ils sont revenus. Et ceux qui sont venus grands fumeurs, c'était les choses qu'on leur donnait, quoi, gratuitement.
D'abord, on a donné longtemps dans l'armée.